direction de son pasteur Emmanuel Boum, vous convie tous les mardis entre 20h30 et 21h30 à une réflexion sur la vie chrétienne aujourd'hui. Au rythme de Dieu, c'est les messages, prédications, enseignements, débats, conférences, interactivités, le tout arrosé par de la très bonne musique. Notez le rendez-vous mardi 20h30, 21h30. Venez et ensemble, marchons à la suite de Jésus.
Soyez bénis et encouragés par celui qui nous donne la vie, celui qui nous a rachetés, celui qui, par la mort à la croix, nous a libérés du péché et nous permet de marcher chaque jour avec lui. Vous êtes tous les bienvenus à l'écoute de Rythme de Dieu sur la 107.8 FM. Pour vous qui nous écoutez pour la première fois, Au Rythme de Dieu, c'est un programme de la Cameroun Baptist Convention, Église Israël Makepe. Et c'est une occasion pour nous de partager la parole de Dieu avec vous. Au rythme de Dieu, tous les mardis entre 20h30 et 21h30, vous-même vous le savez, nous sommes d'habitude trois dans ce studio. Je suis avec le bien-aimé Guy Kentsop. Bonsoir, bien-aimé Guy.
Bonsoir Noé, bonsoir à tous les auditeurs qui nous écoutent ce soir et que la grâce de Dieu vous accompagne.
D'accord, toute la maison se porte bien.
Bien, merci.
Voilà. De l'autre côté, nous avons le pasteur Emmanuel Combe, bien sûr, avec qui nous échangerons, nous parlerons de la parole de Dieu tout à l'heure, dans un message qui certainement vous bénira. Bonsoir, pasteur Combe.
Bonsoir, Noé. Bonsoir, Guy. Bonsoir à tous les auditeurs et bonsoir, nos bien-aimés.
Nous savons qu'avec l'ardeur du travail, il y a parfois la fatigue, mais ce soir, le Seigneur fortifie et ça va.
Amen. Je bénis le Seigneur. C'est vrai que je viens de faire un aller-retour à Yaoundé, ça me fatigue.
C'est ce que je disais tout à l'heure. Nous sommes à votre service. Désiré, tu es à la mise en onde. Pasteur Nwengachu, je suis également à ce microphone. Et avec vous, nous allons adorer le Seigneur ce soir dans une chanson de cœur à cœur. Viens, adore le Seigneur.
Toi qui, au-delà de ce que nous pouvons penser, toi qui chaque jour renouvelle nos forces physiquement, spirituellement, afin que nous puissions atteindre, Seigneur, les hauteurs avec toi, nous te bénissons ce soir.
Alléluia.
Merci Père éternel, toi qui es la vie et qui communique à nous la vie afin que éternellement nous puissions être avec toi. Tu dis que si tu nous as franchis, nous serons réellement libres, et si nous recevons de toi la vie, et c'est en abondance que nous la recevons, nous te bénissons ce soir. Seigneur, sois glorifié, sois exalté. Bien-aimé, ce soir, cher ami auditeur, nous t'invitons à prendre un instant et à considérer les voies de Dieu. Considérer la bonté de Dieu pour toi, tel que tu es. Adore Dieu dans ta condition. Parce que c'est lui qui a dit que le faible dise « je suis fort », que le pauvre dise « je suis riche », parce que heureux ceux qui proclame la justice au milieu autour d'eux. Le Seigneur est venu afin de consoler les cœurs. Jésus-Christ est venu afin d'accorder la libération à ceux qui sont captifs. Tel que tu es dans ta position, tel que tu es dans ta condition, tu peux être rejeté des autres, tu peux être méprisé des autres. Mais Jésus-Christ est celui qui peut te recevoir et t'ouvre les bras ce soir. Viens, viens tel que tu es. Oh, béni sois-tu, Seigneur.
Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi
Jésus. Oh, béni sois-tu, notre Père en Jésus, parce que tu es l'unique. Celui sur qui repose notre espérance. Celui qui, ce qui repose nos yeux. Et nous voulons cheminer vers toi. Nous voulons cheminer en marchant tout droit, Seigneur, vers l'objectif. Béni sois-tu ce soir encore, Père éternel. Toi qui es venu libérer, toi qui es venu affranchir. Béni sois-tu ce soir. Glorifie ton nom, Père éternel. Alléluia, toi, Seigneur.
Tel que nous sommes, Seigneur, nous t'adorons. Tel que nous sommes, nous nous approchons de ton autel. Nous approchons du trône de ta grâce pour t'offrir notre reconnaissance, pour t'offrir notre joie, la gaieté de t'appartenir. Nous t'adorons, notre Dieu, et nous élevons ton saint nom au-dessus de tout ce qui existe. C'est à notre Dieu, même si les hommes de ce monde te renient, même si les hommes de ce monde refusent de croire en toi, Seigneur, un jour tout le monde fléchira devant toi. Un jour tout le monde reconnaîtra ta grandeur. Tout le monde fléchira devant ta majesté. Mais nous, nous t'avons choisi dès aujourd'hui et nous fléchissons devant toi pour reconnaître ta grandeur. Seigneur, demain, quand les hommes se tiendront devant toi, ce sera avec des grincements des dents. Et nous, notre Dieu, nous avons choisi aujourd'hui de t'adorer dans la joie. De t'adorer, Seigneur, notre Dieu, dans la liberté. La liberté que tu nous as accordée par ton Fils, Seigneur, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur notre Dieu, de nous donner d'être introduit dans tes parvis, d'être introduit dans le lieu saint, dans le lieu très saint même, pour pouvoir proclamer ta majesté. Que la gloire te révèle, Seigneur.
Oh oui, c'est mon nom de Jésus.
Oui, oh, Seigneur, nous voulons t'adorer tel que tu es. Proclamer ta grandeur dans la majesté. Priez, Seigneur, que c'est toi qui as fait notre cœur. Et dis gloire, louange, honneur, puissance et sagesse à toi, qui est au-dessus de tout. Toi par qui toutes choses ont été créées. C'est notre bénédiction ce soir. Nous te célébrons à cause de ton amour. Nous te célébrons à cause de ta grandeur. Nous te célébrons à cause de ta sainteté. Et nous venons devant toi pour t'adorer, Seigneur. Reçois la reconnaissance de notre cœur ce soir au nom de Jésus.
Oh, béni sois-tu, Père éternel. Oh, sois exalté. Parce que le jour viendra où, Père, face à face, Seigneur, nous pourrons proclamer ta grandeur. Parce que tu es celui qui nous a relevés. Tu es celui qui a fait de nous, Seigneur, les personnes qui marchent avec toi. Seigneur, tu es celui qui nous a élevés. Tu résistes aux orgueilleux, mais tu fais grâce aux humbles. Père éternel, béni sois-tu. Parce que bientôt encore, nous pourrons savourer de cette présence. Et éternellement, nous te bénissons, Père. Bénis le Seigneur ce soir, cher ami auditeur. Contemple sa bonté dans ta vie, sa présence et sa fidélité quotidienne et continue.
Alléluia.
À chaque instant.
Alléluia.
Et bénis-le pour cela.
Oh, Seigneur.
Oh, bénis-le pour sa présence continue.
Oh,
béni sois-tu, Seigneur Dieu. Alléluia à toi, Seigneur. Oui, viens, Seigneur, et règne. Viens et règne dans nos cœurs. Règne dans nos pensées. Règne, Père éternel, dans nos actions. Règne dans nos motivations.
Règne,
Seigneur, sur ce pays.
Au nom de
Jésus. Règne, Père, dans les familles.
Alléluia.
Oh, béni sois-tu, Seigneur.
Alléluia.
Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen.
Amen.
Quel bonheur de t'appartenir, le seul garant de nos âmes.
Bien-aimés auditeurs de la 107.8 FM, vous écoutez Au rythme de Dieu sur votre chaîne préférée. Et ce soir, nous voulons parler de la croix. C'est un mot qui fait parfois frémir, mais c'est bien de pouvoir le prononcer parce que c'est un mot qui est au centre de la foi, c'est un mot qui est au centre de notre communion avec Dieu. Mais en introduction, nous voulons bien savoir, bien aimé Guy, c'est quoi la croix en nous-mêmes quand nous parlons de la croix.
Quand on parle de la croix de manière immédiate, soit on voit une annulation, soit une addition ou encore bien d'autres. C'est un symbole qui évoque plusieurs significations dans la vie de manière courante, de manière quotidienne. Mais pour le chrétien, dans le sens biblique même de la chose, la croix a pris un nouveau sens, a pris une nouvelle signification et certaine et déterminante à partir du jour où quelqu'un, Jésus-Christ, y est passé et a laissé sa vie. La croix était un moyen de punition, c'est le moyen de punition le plus sévère, il faut le dire ainsi. En ce temps, c'était
un châtiment romain
et une mort par la croix était la pire qu'on pouvait réserver à quelqu'un. Et c'est un peu l'image de la pire des choses qu'un homme, que Jésus-Christ a vécu pour l'humanité tout entière. Et la croix, donc, a une signification profonde pour un chrétien, parce que c'est l'aboutissement même de la raison pour laquelle Christ est venu. Il fallait qu'il passe par la croix, et surtout après la croix, qu'il triomphe. Donc la croix, c'est également le symbole de l'abandon, le symbole du renoncement, le symbole de la victoire, le symbole de l'annulation de notre condamnation en tant qu'homme. Donc pour un chrétien, en fait, il n'y aurait pas de foi sans la croix.
Ça veut dire que je voulais justement en venir, si je parlais de la croix comme étant au centre de l'existence du chrétien. Autrement dit, on ne peut pas parler de foi chrétienne sans parler de la croix. Parce que c'est à la croix qu'en fait commence la foi du chrétien. C'est à la croix que toute chose commence à subsister pour le chrétien. C'est là où Christ s'identifie à l'homme et permet à l'homme donc de revêtir sa qualité de Dieu.
Absolument.
Pour pouvoir vivre une vie chrétienne. Alors, nous comprenons donc que la croix, c'est quelque chose qui tout le long de notre existence en tant que chrétien nous accompagne. On serait donc ce serait donc une aberration de penser qu'on peut vivre en tant que chrétien en mettant de côté la croix. Donc la croix est là et nous la vivons au quotidien dans notre marche avec le Seigneur. Peut-être
parce que c'est même pas de pouvoir croire qu'on peut vivre sans la croix, parce que c'est la croix qui est le centre de la vie du chrétien. Comme tu disais tout à l'heure, sans la croix, la vie chrétienne n'est pas possible. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul a dit que la prédication, c'est celle de la croix. Elle est un scandale pour les juifs qui aiment les miracles, comme elle devient aujourd'hui un scandale pour les églises réveillées qui aiment les miracles, et elle est aussi une folie pour les grecs
qui cherchent la sagesse,
c'est-à-dire pour ce qu'on peut appeler l'église traditionnelle ou les mondains, qui s'approchent de Dieu par la sagesse et par l'intelligence. Mais le centre de la vie, de la marche du chrétien, c'est la croix. Et Jésus dit, si tu ne prends pas ta croix
pour me suivre,
tu n'es pas digne de moi. C'est pas possible.
Et il est important de préciser quelque chose, c'est qu'au départ de la vie chrétienne, il y a la croix. Pendant la vie chrétienne, il y a la croix. Donc, il n'est pas question à un moment de s'imaginer que la croix s'est arrêtée depuis le jour où on a cru. Parce que en fait, quand le Seigneur dit si tu ne portes et ta croix et me suivre, en fait tu n'es pas de moi, il y a tout un symbole, il y a tout un enseignement qui suit. Et qu'est-ce que la croix nous enseigne? Qu'est-ce que Jésus-Christ mort sur la croix nous donne comme enseignement en tant qu'enfant de Dieu, à savoir le renoncement, hein, l'humilité et bien d'autres.
Hein, la privation.
La privation et bien d'autres choses qui sont indispensables dans notre marche avec lui. Lui qui est passé par la croix, pourquoi voulons-nous passer à côté de la croix?
Donc, vous avez compris ce sur quoi nous allons parler ce soir. La croix comme l'élément qui est au centre de la vie du chrétien. Et nous allons en parler dans un court instant, le temps d'écouter cette chanson qui parle justement de la croix. On se retrouve dans quelques instants.
Thank you.
Il a eu compassion de nos vies, c'est pourquoi il est allé à la croix et il a donné sa vie en rançon pour que nous, pécheurs, nous puissions être rachetés. Et c'est pourquoi nous voulons parler de la croix aujourd'hui. Est-ce que c'est très important de savoir ce que c'est que le message de la croix. Et nous allons en parler avec le pasteur Koum qui est dans ce studio. La croix.
Oui, c'est vrai que nous pouvons prendre le message de la croix, mais aujourd'hui nous nous focaliserons pas sur le message de la croix. Nous voulons surtout parler de ce qui s'est passé sur la croix. Hein, à la croix, au moment où le Seigneur Jésus est mort. Et quelles sont les conséquences, quelles sont les conséquences dans la vie du chrétien? C'est ça qui fait du chrétien un homme victorieux ou un homme, je sais pas moi, un homme de défaite. Parce qu'on ne sait, si on ne sait pas ce qui s'est passé sur la croix et quelles sont les retombées dans la vie du chrétien, alors on est un chrétien malheureux comme beaucoup en réalité le sont aujourd'hui. Ils ont comme des juifs couru derrière les miracles et ils n'ont jamais connu la croix, ou bien comme les païens, les grecs, couru derrière la connaissance et n'ont jamais connu la croix. Et très peu de personnes ont connu la croix et vivent la croix. Nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 1, versets 17 à 24.
Car Christ ne m'a pas envoyé pour baptiser, mais pour annoncer l'évangile. Et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix du Christ ne soit pas rendue vaine. Car la parole de la croix est folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est puissance de Dieu. Aussi est-il écrit: je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le contestataire de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas frappé de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs, Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes.
Ouais. Et la Bible nous détermine encore ce qui se passe aujourd'hui. Les réveillés, entre guillemets, les pentecôtes, entre guillemets, recherchent les miracles. Et ont bâti leur vie sur les miracles. En laissant de côté la croix et la prédication de la croix. Et la croix dans les vies. Les hommes du monde, les traditionnels, les intellectuels, recherchent la sagesse et la connaissance. Et tous n'ont pas connu la croix, mais nous nous prêchons Christ et Christ crucifié. Donc en fait, la croix, c'est d'abord la réalisation de ce que Dieu voulait pour l'homme, le salut de l'humanité. Comme nous venons de le lire, sur la croix, Dieu a accompli par Jésus-Christ le travail du salut. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça qui est très important pour nous les chrétiens de savoir. Qu'est-ce qui s'est passé exactement sur la croix ce jour-là? Pendant que Jésus était dans l'agonie, pendant que Jésus était en train de mourir, Colossiens chapitre 2, verset 14 et verset 15, nous allons lire. Colossiens chapitre 2, 14.
Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix.
Et c'est une occasion pour nous de rappeler que le sang de Jésus efface nos iniquités. La première chose qui a été faite sur la croix ce jour où Jésus est mort, il a effacé d'abord. Il n'a pas d'abord détruit. Il a d'abord effacé. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus aucune trace du péché qui condamnait l'homme. Il n'y avait plus aucune trace. Et il n'y a plus, je veux dire, il n'y a plus aucune trace. Le sang de Jésus a purifié nos vies de tout péché. Et quiconque passe par la croix, la Bible nous enseigne donc par ça qu'il efface d'abord tout ton passé. Il efface
tous les péchés que tu as faits. Il efface tout le mal que tu as fait depuis ton enfance jusqu'au moment où tu as donné ta vie au Seigneur. En d'autres termes, tu n'as plus besoin de penser même qu'un jour tu as tué quelqu'un, un jour tu as avorté, un jour tu as trompé. Le Seigneur a effacé toutes ces choses et il n'y a plus de condamnation pour toi. Ça, c'est la première chose. Et maintenant, la deuxième chose qu'il fait au même moment par rapport au péché, c'est qu'il détruit. Et là, nous pouvons vraiment relire encore ce verset. Colossiens chapitre 2, verset 14. La Bible dit, « Il a effacé là-dedans les ordonnances nous condamnées et qui subsistaient contre nous. Et il les a détruits. » Et il les a détruits. Donc, il a d'abord effacé et il les a détruits. Bien-aimé, dans ta vie, la puissance du péché est totalement détruite. C'est ça ce qui s'est passé sur la croix ce jour. Et si tu entres dans la croix, non seulement ton passé et ta vie, ton péché est effacé, mais la puissance du péché en toi est immédiatement détruite. Et le péché n'a plus aucune force sur toi. Et c'est pour ça, en réalité, que nous pouvons dire avec Jean, dans 1 Jean 5, 18 et 1 Jean 3, 9.
1 Jean 5, 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pèche pas, mais celui qui est engendré de Dieu le garde. Et le malin ne le touche pas.
Et le malin ne le touche pas. Quiconque est né de Dieu ne pèche pas et le malin ne le touche pas. Tu es donc dans une situation, on lit aussi un Jean 3, 9.
Et quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu.
Il est né de Dieu, la semence de Dieu en lui, la puissance du péché est détruite. Donc il ne poursuit plus le péché, il ne poursuit plus le mal, il ne peut plus aller de maison en maison pour faire le commérage, il ne peut plus tromper le frère. Pourquoi? Parce que le péché est détruit en lui et la puissance du péché est détruite en lui. Et la Bible dit dans le verset 18 que le diable, Guy, tu peux lire si un Jean,
le malin ne le touche pas.
Le malin ne le touche pas. Non, frère, c'est extraordinaire de savoir que le diable ne peut pas te toucher. Parce que tu es né de Dieu et que sur la croix, Dieu a d'abord effacé tes péchés et il les a détruits. Et parce que Dieu les a détruits, le diable ne peut plus mettre sa main sur toi parce que il dit lui-même dans Jean chapitre 17, tu es pur à cause de la parole que tu as reçue et le diable ne peut pas toucher ce qui est pur. Ce qui revient donc à dire que qu'est-ce qui se passe sur la croix? Au moment où Jésus est mort, la puissance du péché est détruite et tu ne peux plus pécher, tu ne peux plus pratiquer le péché, tu ne peux plus poursuivre le péché. Là, il revient donc à te demander si tu pratiques encore le péché, si tu poursuis encore le mal, est-ce que tu es passé par la croix? Tu peux donc être dans les deux autres bords. Parce que nous avons, si on n'est pas passé par la croix, on est un chercheur de miracles ou un chercheur de connaissances. Et si tu pratiques et tu poursuis encore le péché, alors que la Bible dit, alors que tu es dans la connaissance de Dieu, tu médites et tu pries tous les jours, tu vas donc tomber dans ce que l'apôtre prie, apprenant toujours, mais ne parvenant jamais à la connaissance de la vérité, parce qu'ils ont leur intelligence totalement obscurcie. Et ceux qui ont l'intelligence obscurcie, qui tombent dans ce que l'apôtre Paul a dit, ils sont fous parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Bien-aimé, ça peut être ton cas aujourd'hui. Ça veut dire que tu n'as pas connu la croix. Nous voulons te dire ce qui s'est passé. Et si ces choses ne sont pas réalisées dans ta vie, alors tu n'as pas connu la croix, tu ne connais pas Jésus. Ça, c'est la première chose qui s'est passée. Le péché est effacé. Le péché est détruit après avoir été effacé. Et on est libre de péché. On ne poursuit plus le péché. On ne pratique plus le mal. Et quand on le pratique, ça veut dire qu'on est du côté de ceux qui aiment la connaissance ou du côté de ceux qui poursuivent les miracles. On n'est pas passé par la croix. La deuxième chose, dans Colossiens chapitre 2, verset 15.
Colossiens chapitre 2, verset 15. Il a dépouillé les principautés et les pouvoirs et les a publiquement livrés en spectacle en triomphant d'eux par la croix.
Bien aimé, c'est une histoire extraordinaire. Et le démon qui rendait malade, et le démon qui pouvait posséder quelqu'un, et le démon qui pouvait détruire toute une famille, et les puissances des ténèbres, et les puissances de l'air, et les puissances de... Tous ces principautés ont perdu leur force. Et quand je vois dans des chrétiens parfois qui voient un cafard passer, comme je dis toujours à l'église, et qui crient au nom de Jésus, qui commencent à trembler parce qu'on leur a dit qu'il y a un sorcier qui habite quelque part, il y a... En fait... Le diable même a perdu sa puissance et sa force sur la croix. Et toi qui es enfant de Dieu et qui sais et qui a reçu de Dieu la puissance qui vient de lui, et pour lequel la Bible a dit, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Dès que tu arrives à un endroit, tu n'as pas besoin de lier l'homme fort comme on dit. L'homme fort a déjà perdu sa puissance dans toutes les nations, dans tous les pays, dans toutes les maisons. Et dès que tu en sais, l'homme fort qui, entre guillemets, commence donc à trembler. Parce que la chose se passe en ceci. Jésus-Christ a dit aux pharisiens, l'homme ne peut pas faire ses miracles sans d'abord lier l'homme fort. On ne peut pas entrer dans la maison de quelqu'un sans lier l'homme fort. Jésus a donc lié l'homme fort au moment où il faisait les miracles pendant qu'il était sur la terre. L'homme fort était donc totalement lié et le diable était totalement vaincu. C'est pour ça que les apôtres, quand ils rentraient, ont pu dire, nous avons vu le diable tomber. Ils ont vu la domination qu'ils avaient sur Satan parce que l'homme fort était déjà lié. Le chrétien a une domination sur Satan et partout où il passe, il tombe. Le diable n'a pas de force. Et quand Jésus a donc continué et il est arrivé sur la croix, non seulement il a lié l'homme fort, mais il a dépouillé encore de sa force et de sa puissance. C'est donc en fait comme si tu étais devant un lion qui n'a pas de dents et qui n'a pas de griffes, mais qui peut rugir. Et c'est le rugissement de ce lion qui n'a ni dents ni griffes qui fait peur aux chrétiens. C'est bizarre, c'est vraiment bizarre quand vous êtes devant un lion, un chien qui n'a ni dents ni griffes, un chat qui n'a ni dents ni griffes, mais qui peut miauler, qui peut rugir, qui peut grogner, et tu prends peur alors que tu sais toi-même en lisant les Saintes Écritures que 1. Jésus a lié l'homme fort, 2. Jésus a dépouillé l'homme fort de toute sa puissance, et 3. Jésus t'a donné et t'a revêtu d'une puissance qui te donne le pouvoir de marcher sur les démons, sur tout. Voilà ce qui s'est passé sur la croix, mon frère. Souvent à l'église, je dis, c'est bizarre que quand certains pasteurs arrivent à l'église, dans leur communauté, ils commencent à vous parler. Je lis au nom de Jésus, je lis, je chasse, je chasse. En réalité, frère, moi, je ne lis pas et je ne chasse pas. Parce que je sais que dès que Jean de l'homme fort est parti, dès que Jean, les puissants des ténèbres sont partis, et dès que là où je suis, l'homme fort n'a pas de force parce que c'est comme je dis tout à l'heure, je prends l'image d'un lion sans dents et sans griffes et qui passe son temps à rugir, mais je sais qu'il est sans dents et sans griffes. Donc je peux faire tout ce que je veux de ce lion. Et le diable, là où il est, je peux faire, je le dis, il le sait, de lui tout ce que je veux parce qu'il est dépouillé de sa force et de sa puissance. Voilà donc une chose qui s'est passée sur la croix, bien aimé. C'est-à-dire que pour être devenu chrétien en ayant la puissance que le Seigneur a mis en toi, tu es victorieux sur Satan qui n'a plus de force. La troisième chose qui se passe dans Hébreux chapitre 2, verset 14.
Hébreux 2, verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même afin que par la mort il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable.
Par la mort il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. En d'autres termes, il s'est accompli maintenant ce que Dieu avait dit à Adam dans le jardin, sa postérité écrasera sa tête. Il a anéanti celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Bien-aimé, le diable n'a plus de force. Les puissances et les principautés ont perdu leur puissance. Le diable lui-même a été anéanti et il ne peut plus drainer avec lui la puissance de la mort. Donc, la puissance même de la tentation de Satan et sa capacité de pouvoir mettre les gens dans des difficultés est totalement détruite, anéantie, comme disait mon frère. C'est-à-dire que quand tu arrives dans une famille où il y a les enfants de Dieu, parce que la puissance du péché est totalement anéantie, il n'y a pas d'éclat de voix. Il n'y a pas de dispute, il n'y a pas de querelle. Parce qu'il marche, et ça, ça s'est passé sur la croix. Je parle des gens qui sont passés sur la croix. Ceux qui ne sont pas passés sur la croix, ils sont toujours en train de demander au Seigneur, accomplis un miracle dans ma famille. Accomplis un miracle de telle manière qu'il y ait la paix, qu'il y ait la joie. Accomplis un miracle dans l'église. Accomplis un miracle par ici. Accomplis un miracle pour que les choses marchent très bien. Accomplis un miracle dans ma vie. On n'a pas besoin de ces choses, tout simplement parce que la puissance de Satan et de la mort ayant été détruite, le miracle ayant été accompli, la puissance de Dieu étant dans la maison, le péché n'a plus effet dans la maison, le péché n'a plus effet dans l'église. Conclusion, dans les églises où il y a des problèmes, dans les églises où il y a des disputes, dans les maisons où il y a des problèmes et des disputes, ils n'ont jamais connu la croix. Et nous allons faire une démonstration tout à l'heure. Ils n'ont jamais connu la croix. Parce que la croix n'a pas détruit leur chair. Ils n'ont jamais la puissance du péché et de la mort qui est dans leur chair, qui était dans leur chair avant même qu'ils ne donnaient leur vie au Seigneur, n'a pas été détruite dans la croix, pas la croix. Et c'est pour cela, en réalité, qu'ils sont encore en train de tomber dans le mal. Quand nous lisons Jacques 1, verset 14, nous allons nous rendre compte que, oui, vas-y.
Mais chacun est tenté parce que sa propre convoitise l'attire et le séduit.
Nous comprenons donc qu'en réalité, ce n'est pas le diable qui nous tente. Le diable est juste une sorte de personne qui sait qu'il a perdu sa force et sa puissance, mais qui te fait juste miroiter des choses. Et quand il sait que dans ton cœur, il y a convoitise d'argent, convoitise de sexe, convoitise de ceci, c'est ça donc qu'il va te faire miroiter. Et c'est donc, il va susciter un appétit dans ta convoitise et c'est ta convoitise qui va te faire tomber. Qu'est-ce que je veux dire? Je suis en train de dire que pour une personne qui ne fume pas la cigarette, il n'y a pas de tentation. Quand tu lui présentes la cigarette, il n'y a vraiment pas de tentation. Nous entrons dans l'histoire des rakébites qui ne buvaient pas. Parce que leur père leur avait dit, tu leur présentes le vin, il n'y avait pas de tentation pour eux. Parce que la puissance du vin est morte dans leur vie. Pour toi qui ne fume pas, même si on te présente, même si les gens parlent de la cigarette, il n'y a pas de problème pour toi. Mais pour lui qui aime l'alcool, il y a un problème pour lui. Chaque fois qu'il voit une bouteille d'alcool, il est tenté. Pour celui qui n'aime pas, quand il voit une bouteille d'alcool, il n'est pas tenté. Pour celui qui aime le sexe, quand il voit une bouteille, une femme qui passe, il est tenté. Pour celui qui est mort dans son sexe, ça ne lui dit rien. Celui qui aime de l'argent, quand il en voit, il devient cupide et le désir d'en posséder le tien. Celui qui est mort pas dans la puissance de l'argent, il n'y a pas de tentation, il n'y a pas de problème. Vous comprenez donc que celui qui est passé par la croix et la puissance de Satan a été détruite dans la croix, ça veut donc dire que dans sa chair, la puissance du péché et de la mort a été détruite, il n'y a donc plus de tentation pour lui, en réalité. Il n'y a plus de tentation pour lui parce que le diable lui fera miroiter toutes ces choses, mais sur la croix, il est mort dans toutes ces choses. Et toutes ces choses, parce qu'il est donc mort dans toutes ces choses ne l'attirent plus. Donc, en fait, plus de tentation. Mais maintenant donc, si tu n'es pas passé par la croix et qu'au-dedans de toi, il y a la jalousie, par exemple, au-dedans de toi, il y a l'amour de l'argent, par exemple, c'est donc tout simple que dès que tu es en présence de ce qui te rend jaloux, la convoitise au-dedans de toi sera excitée et on va encore dire que c'est le diable. Alors que ce n'est pas le diable. Ça me rappelle une petite histoire qu'un frère pasteur m'a racontée. Il est arrivé dans une campagne d'évangélisation et à 30 minutes de la prédication, le prédicateur du jour est tombé malade brutalement. Il était en proie de secousses et tout. Et lui, comme on l'a détecté qu'il était dans la foule, on est venu le chercher. Et puis, il est allé prier pour le prédicateur, fatigué. Il a lié tous les démons, il a dit. Il a chassé tous les démons, ceux qu'il voyait, ceux qu'il ne voyait pas. Je ne sais pas s'il avait vu un. Et il a fait tout ce qu'il fallait faire pour que le démon s'en aille jamais de la vie. Bon, on a mis le prédicateur, le fameux prédicateur du jour à côté. Et pendant qu'il était en train de prêcher, il s'est rendu compte, je ne sais pas si on lui a dit ou quoi, que la femme qui était responsable de prière de la campagne sortait avec le prédicateur. Vous vous imaginez donc, et le Saint-Esprit lui dit, tu vois, Dieu l'a touché tout simplement parce qu'il est faux. Et lui-même, il est rentré chez lui, il dit, j'ai passé mon temps à lier le diable pour rien. Oh. J'ai passé mon temps à chasser les démons. C'est tellement les diables et les démons étaient assis quelque part. Il dit qu'on a encore fait quoi dans cette histoire-ci? Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes tranquilles dans notre endroit. Voilà un qui vient nous lier, nous chasser, nous détruire. On a encore fait quoi dans cette histoire? Le gars sort avec une femme. Dieu a mis la main sur lui, c'est encore les démons qu'on lit. Bien aimé, ça c'est un peu amusant comme pour dire que la puissance du péché a été détruite sur la croix. Ça veut dire donc que nous ne sommes plus attirés ni par le sexe, ni par l'alcool, ni par les plaisirs de la terre. Parce que celui qui est passé par la croix, ces choses n'existent plus. Mais maintenant donc, le diable qui sait qu'il n'a plus de force, et sa force a été détruite sur la croix, et qu'il n'a plus de domination sur l'homme, surtout sur celui qui a cru au Seigneur Jésus, va juste prendre le péché et le faire miroiter. Parce qu'il ne peut plus agir par la puissance du péché et de la mort dans la vie des gens. Et quand donc ta convoitise, d'après Jacques, est excitée, c'est en ce temps-là donc que toi-même, tu choisis à commettre le péché. Et c'est pour ça que le diable va toujours être étonné quand les gens vont dire « Le diable m'a fait tomber », il va dire que j'ai encore fait quoi dans cette histoire. Puisque c'est ta convoitise à toi-même qui t'a amené dans la situation. Première chose, destruction du péché, effacé et détruit. Deuxième chose, dépouillement des puissants des ténèbres, les démons qui ont été liés pendant le ministère de Jésus ont vu leur puissance être dépouillée totalement sur la croix. Troisième chose, même le diable lui-même a été détruit avec la puissance de la mort. Voilà ce qui s'est passé sur la croix, le jour où le Seigneur Jésus est mort. Et c'est pour ça que nous avons dit qu'il nous a rendus totalement libres. Il nous a délivrés de toutes ces choses. Et nous marchons donc maintenant en chrétiens victorieux. En personnes qui ne sont plus soumises sous aucune domination et sous aucune autorité. Ce qui veut donc dire, notre bien-aimé, que la deuxième étape de notre vie va donc se passer. Quand nous sommes arrivés à la croix, pour ceux qui sont passés par la croix, pour ceux qui aiment la prédication de la croix, voilà des choses qui se sont passées. Et ces choses ne dépendent pas de lui. Ces choses ne viennent, sont faites par le Seigneur. Et dès que tu entres dans la croix, toutes ces choses se réalisent immédiatement. La puissance du péché est détruite dans ta vie. La puissance de... les puissances sont dépouillées immédiatement dans ta vie. Ton péché est effacé et le diable est totalement détruit. Et tu marches donc en homme libre et en homme victorieux. Même maintenant, tu dois prendre ta croix. Ce sera maintenant la deuxième étape. Il faut que tu portes ta croix selon Luc chapitre 9 verset 23. Il faut que tu portes ta croix.
Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive.
Quel genre de croix? Jésus dit que prenez mon fardeau et mon joug sur vous, parce que c'est léger. Mais il te donne une croix allégée. C'est bizarre. C'est vraiment bizarre. Il te dit, si tu veux venir après moi, tu te portes de ta croix. Guy disait au début que la croix, c'était l'ignominie. C'était le malfaiteur. C'était le méchant. C'était celui qui était considéré comme le rebut de la société qu'il fallait détruire. Et quand Jésus est venu sur la croix, il a détruit toutes ces choses, puissant de Satan et tout et tout. Maintenant, il te dit, porte une croix qui est totalement allégée. Une croix pour laquelle le diable n'a plus d'action. Les puissances des ténèbres n'ont plus d'action. Le péché est mort. La mort elle-même n'existe plus. Tu portes donc une croix qui est plutôt remplie de grâce et de bénédiction du Seigneur. Mais c'est cette croix qui est donc devenue très difficile pour les chrétiens et qui n'arrive pas à porter. Bien-aimé, le Seigneur veut nous amener à comprendre que tous les jours de notre vie, nous devons choisir de marcher avec lui et de l'aimer. Choisir d'aimer n'est pas facile. Choisir d'aimer celui qui t'a fait du mal. Choisir d'aimer celui qui a passé son temps à t'insulter. Choisir d'aimer celui qui t'a traité de voleur, de sorcier. Celui qui t'a traité de tous les noms possibles qu'on peut traiter quelqu'un. C'est ça qui est donc maintenant une croix qu'il peut porter. C'est ce choix-là qui devient très difficile. Pour celui qui n'a pas laissé Jésus détruire le péché dans sa vie sur la croix, la deuxième croix devient impossible à porter. Mais pour celui qui est passé par la croix de Jésus-Christ et dans la vie duquel tout ce que nous avons dit tout à l'heure a été réalisé, hein, puissant de péché, de ténèbres dépouillées, l'homme fort lié, destruction du péché, destruction de Satan, parce qu'il est passé par la croix, aimer devient tellement facile pour lui, parce que d'ailleurs le maître lui-même a dit sur cette même croix, pardonne-les parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça devient une croix totalement allégée parce que, au-dedans de toi, la puissance de la haine est totalement détruite à cause de la destruction de la puissance du diable, que aimer devient facile pour toi. Quand les gens t'insultent, même ils disent tellement de mauvaises choses contre toi, ça devient tellement facile pour toi à le porter. Pourquoi? Parce que sur la croix a été cloué les dominations et les autorités. Et l'autorité. Laisser le mensonge devient une croix, une véritable croix pour des gens. Et une croix qui n'est pas allégée tout simplement parce que sur la croix, ces choses n'ont pas été dépouillées dans leur vie. L'amour du sexe, tu entends un chrétien aujourd'hui qui dit je suis tombé. Demain il s'est relevé, après demain il est tombé. Après demain il s'est relevé, après demain encore il s'est tombé. Pardon, il est tombé. Tout simplement parce que c'est soi qui cherche les miracles, soit qu'il cherche la connaissance de Dieu, mais pas qu'il est passé sur la croix pour le dépouillement de toute sa vie et la découverte donc, et des miracles et de la connaissance de Dieu. Choisir toutes ces choses devient donc une croix pendant notre vie. La croix dans le choix. Ce n'est pas facile de pouvoir choisir d'aimer, de pouvoir choisir de pardonner, de pouvoir choisir même de donner. Ce n'est pas facile. Mais Jésus a rendu ces choses faciles. Donc pendant notre choix, dans la vie de tous les jours, pendant même notre marche, la persécution, la famille qui nous insulte, qui nous rejette, toutes ces choses, c'est la croix qu'il faut porter. Mais une croix qui est totalement allégée et puis dépouillée de toute force et de toute difficulté, parce que sur la croix, Jésus nous a délivrés et nous a libérés de toutes ces choses. Bien aimé, c'est ce que nous voulons vous dire ce soir. La croix, ce qui s'est passé sur la croix et le résultat de ce qui s'est passé sur la croix dans notre vie. Nous parlerons une autre fois de la signification véritable de la croix. Que le Seigneur te bénisse, toi qui as écouté ce message, et j'espère que tu es déjà passé par la croix. Passe par la croix et toutes ces choses vont s'accomplir dans ta vie. Amen.
Vous êtes à l'écoute de Rythme de Dieu sur la 78 FM. Nous avons encore une quinzaine de minutes à passer ensemble. Et c'est l'occasion pour vous de nous joindre au 77-96-29-29 si vous avez une interrogation ou une contribution à cette émission. 77-96-29-29 par appel ou par SMS. Et tout de suite, on va aller chercher un auditeur qui nous a envoyé un message. Alors voici son message. Bonsoir, pasteur. Si vous ne liez pas, comment appréhendez-vous donc le passage de Matthieu 18-18? Ce passage qui dit, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Il ajoute, que dois-je faire quand je fais un mauvais rêve et pourquoi ne devons-nous pas prier pour un miracle de Dieu dans nos vies?
Alors, à Matthieu 18-18, nous allons lire à partir du verset 15. Si donc ton frère a péché contre toi, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou de trois témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'église, et s'il refuse d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous le dis encore, que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose, quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Déjà, mon bien-aimé, tu comprends bien que là où deux ou trois sont assemblés au nom du Seigneur Jésus, il est déjà au milieu de nous. Ça veut donc dire que les démons ne sont pas.
Sauf parce si que le là Seigneur où n'est Jésus
pas
là,
il n'y a pas de démons. Là où le Seigneur est, il n'y a pas le diable.
Absolument.
Je suis donc étonné que dans les assemblées des chrétiens, il y a les démons et les diables. Ça veut donc dire que Jésus n'est pas là. C'est l'un ou l'autre. Ça, il n'y a pas de question à se poser par rapport à ça. Ça, c'est donc une première chose. Et la deuxième chose, c'est que ce texte est lié directement au pardon des offenses. Absolument. C'est-à-dire que si l'Église s'entend à excommunier quelqu'un, cela, cet excommunion est valable même dans le ciel. Après que nous ayons fait toute la démarche que nous venons de faire, tu vois le frère, tu amènes deux personnes, on amène le frère devant l'Église, et s'il refuse d'écouter l'Église, si l'Église prononce un mot contre lui, ce mot aussi est prononcé. Et si maintenant le frère revient pour le pardon des péchés, et il reconnaît son erreur, et maintenant l'Église s'arrête encore pour prononcer, pour délier quoi, la parole que l'Église avait prononcée, cette parole est aussi déliée dans les cieux. Voilà, c'est ce que le Seigneur dit, et... la deuxième question, c'est le rêve.
Avec votre permission, avant d'évoluer à la deuxième préoccupation, il faut rappeler ici, et c'est très important, c'est vraiment une exhortation que nous voulons passer à nos auditeurs. Il faut vraiment que chaque verset soit compris et cité dans le contexte où il se trouve. Parce qu'il ne s'agit pas de prendre ce verset de Matthieu 18-18.
On a et tout fait d'attacher au démon.
Voilà. Et puis penser que c'est lié à la démonologie ou bien à quelques esprits que ce soit. Donc, c'est important de pouvoir, à chaque moment, à chaque fois, donc, situer ce contexte. Et ça a été clairement dit, c'est par rapport à une communauté, le pardon, par rapport à l'acceptation, ou alors le refus de pardonner, ou alors l'excommunion même que peut se donner tout membre de la communauté, forcément la communauté vis-à-vis du membre également. Voilà. Donc, la deuxième préoccupation, c'est par rapport au rêve.
Voilà. Et nous voulons encore dire que par rapport à cette question, il faut véritablement que les chrétiens fassent très attention. Parce qu'ils se sont eux-mêmes mis dans un joug terrible. Ils ont la victoire sur Satan. C'est le diable qui a peur d'eux. C'est le diable qui s'éloigne d'eux. C'est le diable qui cherche tous les moyens pour pouvoir les mettre dans les situations difficiles. Et pendant qu'un lion sans dents est en train de mouvoir, les gens ont peur du lion.
On dirait,
on ne comprend pas.
On dirait, deux animaux alors qui se voient et qui l'ont en peur de l'autre. Ils commencent à fuir chacun de son côté.
Une autre expression, toute simple, c'est que la Bible dit que Jésus est le lion de la tribu de Juda. C'est-à-dire que nous sommes nous-mêmes un lion, puisque si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'ai un lion qui est plus fort, le lion de la tribu de Juda, et il y a un petit lion qui rôde à côté, cherchant qui dévorera. Alors, à moi de reconnaître l'autorité de Christ qui est en moi, par rapport à ce lion qui rôde.
Et je te prends même sur les mots, il rôde. Il n'entre même pas dans la vie des chrétiens parce qu'il sait qu'il n'a pas le pouvoir de le faire. Oh, j'ai vraiment pitié de beaucoup de chrétiens, vraiment. Ils sont liés, ils n'ont pas de force. Ils sont... Bon, nous passons à la deuxième question. Si je fais un mauvais rêve, bon, je veux déjà te dire très rapidement qu'il faut l'annuler. Mais il faut rechercher l'origine de ton mauvais rêve.
Absolument.
Est-ce que ce sont des pensées refoulées? Je veux dire une chose. Tu as regardé la télévision toute la journée. Et puis, dans la télévision, tu as vu des meurtres. Dans la télévision, tu as vu le sexe.
D'amour.
Et puis, Esaïe même le confirme, tu refoules la pensée. Esaïe dit, j'ai faim, je rêve la nuit que j'ai mangé, et le matin, je me réveille le ventre affamé. C'est ce que les scientifiques appellent la pensée refoulée. Et maintenant donc, la nuit, tu rêves que tu es en train de bagarrer avec des gens. Ou la nuit, tu rêves que tu es en train de faire l'amour avec une sœur de l'église. Celle que tu regardes beaucoup. Ça, ce n'est pas un, c'est toi qui as créé des pensées dans ta tête. Si maintenant tu es une personne qui a peur de Satan. Quand un cafard passe, tu crois que c'est un démon. Quand une souris passe dans ta maison, tu crois que c'est quelqu'un qui est possédé, qui est venu. La nuit, tu rêves qu'on est en train de te pousser, on est en train de te tuer. Il faut que tu fasses très attention. C'est toi qui es à l'origine de tes défaites et de tes rêves. Parce que si tout ce qui est pur, honorable, digne de louange et digne de pensée est l'origine de tes pensées, la nuit tu vas rêver que tu es en train de louer et adorer le Seigneur.
Amen. Amen.
Bon, mais maintenant, donc, si tu fais un mauvais rêve, tu l'annules et tu cherches l'origine afin que tu te répandes si le mauvais rêve vient de ton péché.
Et il faut aussi préciser, pasteur, que le rêve, l'origine du rêve est également, comment je dis, physiologique. Je veux dire que pour ceux qui mangent beaucoup, oui, dans la nuit, ils font des cauchemars.
Ils font des cauchemars, ça c'est bien évident. Ça, on le sait. Hein?
Donc,
on y va avec l'autre question.
C'est...
Pourquoi ne devons-nous pas prier pour les miracles?
Le miracle.
C'est de la ce qui est déjà évident, c'est que le miracle accompagne celui qui a cru. Non, ça, mon frère, si tu marches dans la sanctification, je le dis et je le redis toujours, tu vas demander au Seigneur exactement ce qu'il va te donner. Parce que si tu marches dans la sanctification, tu sais ce que tu ne peux pas demander au Seigneur. Et ce que tu demandes au Seigneur, le Seigneur va te le donner parce que dans la communication entre toi et lui, tu n'as pas besoin de te plaindre. Je veux dire ceci. Si tu es marche dans la sanctification, c'est-à-dire dans la communion avec le Seigneur, tu sais qu'à ce moment précis, tu ne dois pas demander le travail, Dieu ne va pas te le donner. Puisque, à ce moment précis, Dieu et toi, pardon, vous avez un plan sur autre chose. Dieu sait qu'à ce moment précis, jeune fille ou jeune garçon, si tu demandes le mariage, il ne va pas te le donner. Toi-même, tu le sauras. Mais maintenant, si tu marches dans la sanctification, tu sais qu'à ce moment précis, si tu demandes le mariage, Dieu va me le donner. Pourquoi? Parce que, voilà les raisons, d'ailleurs Dieu dit qu'il ne fait jamais rien sans le révéler à son prophète. Et si tu es son prophète, il te dira des choses par rapport à ta vie. Donc quand tu te tiendras, tu vas juste te dire comme Élie, à ma parole il ne pleuvra pas. À ma parole il va pleuvoir. Parce que les miracles accompagnent ceux qui ont cru. Maintenant non, si tu es dans l'indécision, que tu ne sais pas si tu dois être guéri de ta maladie ou si tu vas encore garder ta maladie, pendant longtemps pour la gloire du Seigneur. C'est ça le problème du chrétien. C'est ça le problème de celui qui cherche le miracle. Il ne sait pas si à ce moment précis, je dois encore garder ma maladie pour la gloire de Dieu, afin que le nom de Dieu soit glorifié. Ou bien si je dois demander la guérison pour la gloire de Dieu, afin que le nom de Dieu soit glorifié. Dès qu'il y a maladie, il faut demander le miracle. Dès qu'il y a maladie, il faut demander. Dès qu'il y a chômage, il faut demander le travail. Mais jamais on est dans la communion avec le Seigneur pour savoir. Donc si tu es dans l'indécision et si tu ne connais pas la communion que tu as avec Dieu, demande le miracle, mon frère. Et le Seigneur va te donner. Mais si tu vas dans la sainteté, le miracle va te suivre.
Et il faut aussi un complément, pasteur, c'est que déjà il faut qu'on comprenne qu'en tant qu'enfant de Dieu, la décision que nous avons prise à l'acceptation de la croix même est un miracle en lui.
Oui.
La croix même est un miracle en elle-même. C'est-à-dire la transformation, l'ensemble des choses que vous avez dites là tout à l'heure, ce sont des choses qui sont incompréhensibles à notre entendement et même dans notre marche. Chaque jour quotidienne, si nous nous chargeons de la croix de Christ, nous comprenons qu'à un moment, au lieu, pendant, on prend l'exemple de Paul qui a prié pour la disparition de
Richard.
Et le Seigneur lui a dit, ma grâce te suffit. Hein, ma grâce te suffit.
Nous allons prendre cet auditeur, non, malheureusement, il est parti. 77 96 29 29, c'est notre numéro d'accès dans ce studio. 77 96 29 29 pour une question ou pour une contribution à cette émission. Tu disais là, ta grâce te suffit.
Non, c'est ce que le Seigneur dit à Paul. Et il faut qu'on apprenne dans notre marche, mm-hmm. Dans ce que nous vivons, que ce soit la maladie, que ce soit la pauvreté, mm-hmm. que ce soit le manque et d'autres, qu'on apprenne à pouvoir voir Christ, à pouvoir saisir Dieu au travers de cela, et non pas toujours imaginer que le miracle, c'est la transformation hein, des choses selon nos propres désirs, nos propres volontés.
Auditeur en ligne, allô?
Oui, bonsoir.
Oui, bonsoir, vous vous appelez?
Je m'appelle
Anne. Elle peut réduire le
volume. Anne, nous t'écoutons. Tu peux baisser le volume de ta radio, s'il te plaît?
Oui. Dans un premier temps, je voudrais bénir vraiment Dieu pour le pasteur qui a parlé tout à l'heure. Je viens de commencer à suivre votre radio. Avant, je suivais Bonne Nouvelle. Bon, je ne savais pas, je suis catholique comme ça.
Oui.
Et je suis aussi. Mais je voudrais vraiment, je ne sais pas, c'était une prédication ou c'était.
C'était un enseignement.
Un enseignement. Si vous voulez le CD, vous nous contactez.
Je voudrais le supplier au nom de Jésus que le pasteur le mette sur CD. Oui. Parce que les chrétiens tombent beaucoup dans ce piège-là. On passe tout cela. Et j'ai vraiment été très touchée. Je viens de m'appeler et je me suis dit, viens sur un peu que. Parce que même moi qui a accepté Jésus depuis presque 20 ans, je tombe toujours dans ce piège-là. Si c'était possible, cet enseignement-là, qui peut le faire sur CD, ça va aider beaucoup de chrétiens.
Okay. D'accord, on va vous offrir déjà le CD. Vous me contactez au 94 35 44 54. Vous me contacterez au 94 35 44 54. Nous allons essayer d'éditer le CD et nous allons vous le passer gratuitement.
Ou alors 78 87 87.
Oui, 70 78 78 87.
Mais
78 78. Oui, 70 78 78 87.
77.
Oui, c'est ça. 70 78 78 87. Là, je vais venir demain. Mettre l'enseignement dans ma clé et puis je vais faire un CD, je vais vous passer gratuitement. Vous m'appellerez dans deux
D'accord.
jours.
Que Dieu vous bénisse vraiment.
Que le Seigneur vous bénisse, aussi. Oui.
Voilà, merci je pense que c'est Anne qui nous a joint ce soir. Il est important véritablement que nous vivions la croix du Seigneur. On va prendre cet autre auditeur qui nous appelle. Allô?
Allô?
Oui, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir, Pasteur Noé.
Oui, vous vous appelez?
Moi, c'est Madame Eba.
Madame Eba, d'accord.
Oui. Oui. Alors, je salue aussi tous les autres pasteurs dans la salle, c'est le pasteur Koum.
Merci, bonsoir, madame.
Ok. En fait, je voulais remercier le pasteur Koum pour son enseignement encore d'aujourd'hui. Et poser aussi une question. C'est possible, pasteur?
Oui, oui. Oui.
On a quelques secondes encore.
D'accord, je vais juste savoir, pasteur, comment est-ce qu'on peut faire pour arrêter de tomber et de retomber, comme le pasteur disait tout à l'heure, parce que je prends les décisions, ça franchement, avec sainteté, tous les matins, de ne pas mentir à longueur de journée. Mais comme on a grandi dans un environnement où le mensonge n'était pas comme un crime, ou je ne sais pas trop, on a grandi avec ça, donc je ne sais pas comment prendre une décision pour pouvoir bannir ça. Dans sa vie ou je sais pas, mais pour apprendre à dire la vérité sans te penser à nuire à quelqu'un ou je sais pas trop quoi. Bon, c'est ce que je voulais savoir. Bonne soirée et je vais suivre le reste à l'antenne. Merci.
D'accord. Merci, Madame Eba, et bonne soirée à vous. Alors, Madame Eba pose la question du fait de toujours tomber, de retomber sans cesse. On prend des décisions, on ne parvient pas à tenir. Prenons peut-être cet autre auditeur qu'on revient. Allô? Mm-hmm.
Oui, bonsoir.
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 Bonsoir, oui.
Vous êtes monsieur?
Mohamed Koum.
Mohamed.
Oui, je voulais vous demander pourquoi l'Église n'enseigne pas la magie sexuelle.
N'enseigne pas?
La magie sexuelle.
La magie sexuelle.
Disons, oui.
C'est quoi pour vous la magie sexuelle? Allô?
Allô?
Oui, c'est quoi pour vous la magie sexuelle?
Bon, parce que dernièrement, je ne sais pas si c'était sur votre antenne, j'ai posé cette question, bon, le pasteur était là-bas, il l'a envoyé, et je l'ai appelé après, il n'a pas pu répondre.
Monsieur Mohamed?
Je veux parler de la sexualité.
Ah, de la sexualité?
Oui,
d'accord.
L'Église n'enseigne pas
sur la sexualité
aux fidèles, c'est ça que je voulais dire.
D'accord. Bien, merci, monsieur Mohamed, vous restez à l'écoute.
Oui,
on va commencer par madame Eba.
Non, je vais plutôt dire à monsieur Mohamed que s'il avait été une fois à l'écoute du plateau, une autre émission plateau, nous avons véritablement débattu de la sexualité. Et vraiment, ça avait enrichi beaucoup de personnes qui avaient appelé. Et vous pouvez contacter la radio. Et si le CD est aussi disponible, vous pouvez le réacheter. Vous demanderez l'émission de plateau dans laquelle on avait parlé de la sexualité. Et vous pouvez avoir cette émission.
Et peut-être de toutes les façons, peut-être que vous êtes dans une communauté où on ne parle pas de sexualité. Mais ça ne veut pas dire que dans toutes les communautés, on ne parle pas de sexualité. Peut-être qu'on ne viendra pas à un culte de dimanche prêcher sur la sexualité, mais dans les études bibliques, comme dans les enseignements particuliers, ce sont des thèmes qui sont véritablement débattus, parce que ça fait partie de la vie de l'homme, et il est important de savoir gérer également la sexualité. Dans les enseignements qu'on donne, par exemple, aux jeunes, dans notre église, nous avons les groupes des jeunes ou les groupes des filles. La sexualité, c'est un thème qui est constamment débattu pour que les gens puissent savoir à quoi s'attendre. On pense qu'il est très important, même en tant que parent, d'en parler à nos enfants.
Voilà.
Parce que si vous ne leur en parlez pas, ils vont apprendre ailleurs, ils vont apprendre de la mauvaise façon.
Voilà.
Et ce sera très difficile à gérer parce que la mauvaise information est déjà là. Et pour la corriger, c'est très difficile.
Voilà. Et surtout que nous parlons de la sexualité selon le Seigneur.
Voilà.
Bon, je voulais dire à Madame Eba que très souvent... Et ça a été le problème. Nous sommes entrés dans la vie de Christ, pas par la croix, mais par les miracles. Et c'est le problème de la génération aujourd'hui. Il n'y a donc pas eu un dépouillement au départ. Il n'y a pas eu une destruction dans la croix du péché et du mal. Ça fait donc qu'on est très souvent ballotté. Je crois qu'il faudra revenir sur la croix. Parce qu'en réalité, madame, quand on est passé par la croix, il est vraiment difficile. Je n'ai pas dit qu'on n'est pas tenté. Je n'ai pas dit qu'on n'est pas éprouvé. Mais on ne peut vraiment pas poursuivre le péché. Ça, c'est très difficile. Pratiquement impossible. Donc, ce que je vais vous dire, c'est qu'il faut revenir à la croix. Et bon, si nous aurons l'occasion d'en discuter, nous parlerons plus profondément.
Et peut-être dire une autre chose, c'est que nous retombons dans les choses parce que nous ne détruisons pas les structures du péché autour de nous. C'est-à-dire que nous sommes dans une situation où tu sais que quand tu vas chez tel garçon, chez telle fille, tu te retrouves dans telle situation. Mais tu ne prends pas la résolution de ne plus aller chez tel garçon, chez telle fille, te disant que quand tu vas arriver là-bas, tu seras fort et tu vas résister. Et ces mêmes choses t'entraînent à te retrouver dans les mêmes péchés tout le temps. Quand tu sais que quand tu poses ceci comme ça, ça t'emmène à te comporter comme ça. Au lieu que tu ne poses plus ça comme ça, tu reposes toujours là et chaque fois, tu viens cogner ton pied dessus et tu tombes. Donc, il faut détruire aussi les structures, les choses qui t'emmènent à te retrouver dans le péché. Si tu sais qu'en regardant la télévision à longueur de nuit, tu vas te retrouver dans tes sujets, ne regarde plus la télévision, c'est aussi simple que ça. Donc,
que si c'est ton œil gauche, il faut enlever le jeûne. Si c'est ton bras, tu enlèves, ça, il vaut mieux arriver au ciel borgne ou manchot.
Et là, nous disons tout simplement que c'est la deuxième forme de la croix, porter sa croix et suivre le Seigneur, qui arrive donc aux décisions et aux choix que nous devons prendre, qui sont souvent très difficiles, parce qu'ils ont parlé de ces choses, mais nous allons voir que le mensonge, si je peux parler de ce que Madame Eba a dit, vient parfois de l'amour des choses que nous aimons. On est donc obligé, parce qu'on aime à rendre visite à sa maman, on est donc obligé de mentir son mari que je vais aller chez une tante ou bien je vais rester, voilà. Alors qu'on sait soi-même qu'on va aller. Donc là, ça c'est la croix d'hommage. Mais la croix qui détruit cette puissance et cette force dans votre vie, c'est la croix de Jésus-Christ. Et nous bénissons le Seigneur pour cela.
Voilà, nous allons, nous sommes désolés de ne pas pouvoir prendre tous ceux qui souhaitent encore nous appeler. Nous sommes parvenus au thème de cette édition, du rythme de Dieu sur la 107.8 FM. Mais avant de partir, nous rappelons que la campagne d'évangélisation...
À Brazzaville, elle commence jeudi, par les portes à portes, et puis vendredi, jusqu'à du 8 au 13, ce sera une alternance film-prédication. Et vous êtes vraiment invité. Peut-être que vous avez déjà donné votre vie au Seigneur. Invitez un païen, quelqu'un qui n'a pas donné sa vie au Seigneur, il pourra recevoir le salut. Le lieu de la campagne, c'est le carrefour, c'est à côté de l'école, à Brazzaville, à côté de l'école maternelle La Bonté. Hein, carrefour King David. Côté de l'école, et vous êtes bien invité. Et, pardon, à la suite de cet enseignement d'aujourd'hui, nous voulons parler de l'identité du chrétien. Après la croix, qu'est-ce qu'on est devenu? Cela nous donnera encore de nous rendre compte véritablement que nous sommes des véritables enfants de Dieu et que le monde ne peut pas nous ébranler.
Amen.
Donc nous commencerons mardi prochain.
Ok, toutes les façons, si vous avez besoin de compléments et de plus d'éclaircies sur tout ce que nous avons dit ce soir, 94 35 44 54 70 78 78 87. Voilà les contacts par lesquels vous pourrez nous joindre. Ou alors, si vous êtes internaute, vous pourrez écrire l'adresse email koum01@yahoo.com et nous serons heureux de vous lire et de vous encourager. Merci à tous d'avoir écouté. Désiré Thuria était à la mise en onde, le pasteur Koum, le bien-aimé Guy Kantsop et moi-même. Nous étions là pour vous servir. Portez-vous bien, à mardi prochain, 20h30, s'il plaît à l'Éternel. Shalom.
Aujourd'hui. Au rythme de Dieu, c'est les messages, prédications, enseignements, débats, conférences, interactivité, le tout arrosé par de la très bonne musique. Notez le rendez-vous mardi 20h30, 21h30. Venez et ensemble, marchons à la suite de Jésus.